Enjeux internationaux, Thierry Garcin.
J'en parlais tout à l'heure dans les titres de la presse, il est question dans les enjeux de ce sommet européen qui a lieu à Bratislava aujourd'hui, premier sommet sans le Royaume-Uni. Bonjour Thierry Garcin.
Bonjour Émilie. Et alors, Union européenne, ce sommet informel à Bratislava aujourd'hui, la gestion du Brexit par Bruxelles, en tout cas c'est le sujet qu'on a choisi. Et bonjour Christian Lequesne.
Bonjour Thierry Garcin.
Vous êtes professeur aux séries Sciences Po, spécialiste bien sûr de l'Union européenne, de la construction européenne en général. Alors le Brexit évidemment est un événement autant international qu'européen, mais quand même c'est la nature même de la construction européenne qui en est modifiée. Une vérité d'évidence, l'Union européenne est flagellante, pour ainsi dire dépourvue de finalité, le projet fédéraliste ayant là aussi explosé en vol, et puis l'Union européenne a subi de très rudes secousses, la crise de la dette souveraine, la crise grecque aussi, l'immigration massive voulue par l'Allemagne, la mise à bas des accords de Schengen, et puis le Brexit, ce qui est un événement absolument considérable. On va voir avec vous donc quel scénario privilégié. Vous êtes d'accord pour dire que c'est un événement, le Brexit, et le vote en juin dernier donc en faveur du retrait par les Britanniques, que c'est un événement non seulement européen et communautaire, mais en fait international?
Bien sûr, et on l'a vu dans les réactions d'ailleurs des chefs d'État et de gouvernement de par le monde. Beaucoup d'entre eux d'ailleurs ne l'ont pas souhaité, ce Brexit, car ce qui est intéressant, c'est que nous en Europe aujourd'hui, on a complètement intégré le fait que nous avons du mal à être unis, alors que à l'extérieur, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, on a une demande d'Europe unie. En ce sens, l'intervention qu'avait faite Barack Obama en avril dernier, lorsqu'il est allé à Londres, était très explicite. Il disait aux Britanniques, vous savez, si jamais vous sortez, moi, je ne ferai pas particulièrement d'efforts pour signer, par exemple, un traité de commerce avec vous. Ce qui m'intéresse, c'est l'Europe. C'est ça mon objectif.
Alors, Christian Lequesne, on va essayer de dégager quelques scénarios, en tout cas, qui valent pour l'heure présente, puisque, on le sait, il y a un certain nombre d'échéances, à la fois pour Londres et pour Bruxelles en la matière. Est-ce que, comme on en a l'impression, est-ce que vous croyez que les Britanniques sont en train de jouer la montre, puisqu'ils n'ont pas encore activé le fameux article 50 auprès de l'Union européenne?
Sans aucun doute. Les Britanniques ne se pressent pas parce qu'ils sont en train de rechercher la meilleure formule. Et il y a donc des contradictions entre leurs attentes et ce que l'Union européenne peut leur donner à court terme. Je crois que le scénario idéal pour la Grande-Bretagne, ça serait un accord ad hoc avec l'Union européenne, qui garantirait donc un statut tout à fait particulier, où les Britanniques garderaient le bénéfice du marché intérieur, c'est-à-dire de la libre circulation des marchandises, des services, mais sans la libre circulation des personnes, car la question de l'immigration a été très sensible dans la campagne, chez les partisans du Brexit, et puis ils souhaiteraient un minimum de contribution au budget communautaire et un accès à la décision sur le marché intérieur.
Mais alors à ce moment-là, on peut vous...
Ça c'est le scénario idéal pour Londres.
Mais c'est le scénario catastrophe pour Bruxelles, parce qu'ils auraient le beurre, l'argent du beurre, et comme on dit, la crémière.
Exactement. Donc moi, ce que je pense, c'est que il faudrait profiter de cet événement pour essayer de redéfinir plus généralement un modèle d'Europe. Il y a eu pas mal de propositions qui ont circulé là à la fin de l'été. Je crois que le modèle des deux cercles concentriques est un bon modèle, c'est-à-dire que on pourrait considérer qu'il y ait un cercle du marché intérieur avec des mécanismes de décision auxquels la Grande-Bretagne appartient, et puis que l'Union européenne, ce qu'on appelle l'Union européenne aujourd'hui, devienne finalement le cercle intérieur pour ceux qui soit participent déjà à l'Union économique et monétaire, soit ont vocation à y participer. Je pense en particulier aux Polonais et aux Tchèques. Voilà. Et donc, il faudrait redéfinir de manière plus générale, de façon à être bien certain aussi que les Britanniques aient une enfin, est un moyen de décider sur le marché intérieur, mais certainement pas sur le reste. Voilà.
Alors le marché unique, c'était vraiment ce qui était leur cœur de métier à Londres. Monsieur Cameron, avant évidemment le référendum, l'avait souvent dit. Donc marché unique, libre circulation donc des biens, des services, des capitaux et des hommes. Et ça, des hommes, évidemment, c'était le point qui fâchait pour eux. Et ce serait quand même un précédent extrêmement ennuyeux s'il au fond Londres bénéficiait à terme d'encore plus d'Europe à la carte. Ce serait un précédent qui pourrait être imité par d'autres pays tentés par justement des arguments, par des arrangements sui generis ou ad hoc.
Alors on a déjà un exemple, si je puis dire, qui est un peu différent de ce que les Britanniques veulent, qui est ce que l'on appelle l'espace économique européen, c'est-à-dire trois pays, le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège, bénéficient de l'ensemble des dispositions du marché intérieur, mais ne participent pas au processus de décision. Et c'est cela que les Britanniques ne souhaitent pas. Et en même temps, ils appliquent aussi la mobilité sur la libre circulation des personnes, autre chose que les Britanniques ne souhaitent pas. Non, je pense que le scénario à la carte, qui est bien sûr celui que la diplomatie britannique va mettre sur la table, est un scénario tout à fait contre-productif pour l'avenir de l'Union européenne. Oui, ça, j'en suis convaincu.
Sans entrer dans la technique et dans le droit communautaire, est-ce que les Britanniques ont les moyens de faire durer le plaisir ?
Alors, le traité prévoit que si on n'a pas mis en œuvre le fameux article pour la sortie formelle, qui est l'article 50, il peut se passer une période de 2 ans. Et à mon avis, c'est un peu sur cette échéance des 2 ans que la diplomatie britannique, il faut le rappeler, qui est une excellente diplomatie, qui a beaucoup de professionnalisme, mise.
Et alors, ils profitent, les Britanniques, aussi quand même d'un effet de calendrier, d'un effet d'aubaine, c'est la présidentielle et les législatives, donc, en 2017 en France, évidemment, et puis les législatives prévues en septembre en Allemagne.
Bien sûr, c'est totalement intégré dans leur calendrier. C'est vrai que pour les Français et les Allemands, ça va être assez difficile de prendre des positions claires avant les élections, donc du mois du printemps et puis du mois de septembre pour l'Allemagne. Je pense qu'il aurait fallu le faire très très tôt, c'est-à-dire dès qu'on a eu la décision britannique, ou que maintenant il faut attendre. Et donc ça nous repousse, c'est vrai, au mois de septembre, octobre 2017.
Oui, au mieux. Alors, quelle est la position au fond de l'Allemagne ? Parce qu'on a l'impression que, en tout cas, Madame Merkel, et en plus c'est un gouvernement de coalition, ce n'est pas simple, Madame Merkel elle serait plutôt d'accord pour ne pas trop se précipiter. Et quant à la France, est-ce qu'elle dit quelque chose de très clair ?
Alors, Madame Merkel est toujours dans une stratégie de prudence. Ça, c'est une caractéristique de toute sa politique. Ne jamais aller trop vite. Et à l'égard de la Grande-Bretagne, la position allemande actuelle, c'est plutôt de dire il faut trouver un compromis car il y a des intérêts économiques qui sont très forts entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et puis même, j'allais dire, des intérêts dans la conception de ce qu'est le marché intérieur. Maintenant, est-ce que l'Allemagne, pour moi la question essentielle est là, croit encore au développement futur de l'Union européenne, ou est-ce que l'Allemagne est favorable à une sorte de statu quo? Ça, pour moi, c'est la question essentielle aussi si on parle de réforme plus générale après les élections de septembre 2017.
C'est une question souvent à laquelle on a l'impression que l'Allemagne, en son fort intérieur, a répondu. C'est-à-dire que, enfin, c'est un autre débat, on pourrait y revenir. On parlera de la France un autre jour, Christian Lequesne, puisqu'on arrive au terme de l'émission. Je voulais vous remercier. Je rappelle que vous êtes professeur aux séries Sciences Po, et évidemment, pour vous télécharger, pour vous réécouter, franceculture.fr, et puis on reviendra la semaine prochaine, d'ailleurs lundi prochain, sur ces questions européennes, notamment sur les questions franco-allemandes, germano-françaises. Un grand merci.
Bonne journée.